Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au studio Charles Trenet de la maison de Radio France, où je suis heureux d'accueillir notamment les élèves du lycée Blanqui de Saint-Ouen ainsi que les élèves du collège Marie Curie de Paris 18e pour une émission consacrée ce soir à l'actualité dramatique et néanmoins théâtrale avec les malades imaginaires de la critique. J'ai nommé Charlotte Lipinska de Vanity Fair, Armelita Armelelio du Figaro, la richissime Fabienne Pasco de Télérama, et avec méchant Jacques Nerson de l'Obs pour parler ce soir notamment du malade imaginaire, vous l'avez compris, mais également de Bella Figura de Yasmina Reza, des trois sœurs de Tchekhov, des oiseaux de Mouawa de Thomas Bernhard, de Festen de Thomas Vinterberg, et puis aussi de J'accrocherai sur mon front, trois petits points, un spectacle que vous avez vu au Firmin Gémier. Dans le courrier de la semaine, on nous écrit « Chers masques éplumés, vous qui ravissez mes trajets de retour à mon bureau le lundi matin grâce à la merveille de vos podcasts », nous écrit Christophe Léger de Paris, « Je suis au regret de vous dire que M. Nerson a vraiment exagéré, c'est pas la seule fois, je vous rassure, en déclarant au sujet du spectacle des Chiens de Navarre à Douai, la collectivisation, ça n'a pas marché pour le partage des terres en URSS, ça ne marche pas non plus au théâtre. » Pour cet auditeur, la collectivisation en URSS a fonctionné, c'est l'usage des richesses de ce modèle qui a été mal utilisé, Jacques. Contrairement à Fabienne, Philippe Couteillas applaudit M. Lucchini, un cabotin de première classe qui joue avec son public et c'est un vrai plaisir. Un spectacle comme ça, c'est énorme avec 5 O. Jolie lettre, tiens, des élèves du collège Jean-Jacques Rousseau d'Otis en Seine-et-Marne et de leur professeur Aurélie Jacquier qui nous écrivent après avoir vu les fourberies de Scapin à la Comédie Française. Nous avons écouté en classe, avec un vif intérêt et non sans amusement, les critiques du masque se volaient dans les plumes. C'est bien qu'on écoute le masque en classe, non ?
Merveilleux.
Du haut de nos 13 ans et du paradis de la salle Richelieu, un zogma pour la collection de M. Garcin, nous avons trouvé la mise en scène de Denis Podalydès très divertissante et le parti pris de mettre l'accent sur la farce tout à fait réjouissant. Mention spéciale à Benjamin Laverne, virtuose dans le rôle-titre, ainsi qu'à Adeline Dermy, et son fou rire communicatif. On en redemande, nous disent ses élèves, même des coups de bâton. Enfin, Frédéric Chalot nous écrit, cher masque, Miss Plume, Donna Armelita de la Puerta del Sol, Don Garcinet, je ne sais pas si je dois bien le prendre, ça. On dirait un parrain. Je suis tombé avec plaisir sur une citation de notre Guitry National, nous on la connaît bien cette phrase, que je ne résiste pas au plaisir de vous transmettre bien amicalement, il faut mieux entendre le bien amicalement avant, de point ouvrir les guillemets, les critiques sont comme les eunuques, ils savent, mais ne peuvent pas. Je sais, venant d'un auditeur, ça paraît une critique, mais il n'en est rien, je vous adore. Mais ça m'a fait rire, et j'imagine vous aussi. Je suis pas sûr.
Si on voulait, on serait de très bons comédiens.
Dans quel rôle ?
Donia Machin, là, et puis...
Ah, mais ça, c'est...
Garcinet.
Ça, c'est un rôle, de composition, ça. C'est un film culte. C'est désormais une pièce, même si Daniel Benoît l'avait déjà porté à la scène il y a 15 ans. Ça, je ne l'avais pas vu dans cette version-là. Le film, c'est Festen du Danois Thomas Vinterberg qui inaugurait le Dôme 95 prôné par Lars von Trier où l'on voit une famille voler en éclats, le mot est faible, à l'occasion du 60e anniversaire d'un père dont le fils va révéler la vraie nature, l'horrible et incestueuse nature, à l'instant même de porter un toast, un secret de polichinelle, dont la révélation ne fait pas broncher, évidemment, l'assistance très hypocrite. La pièce est mise en scène et en images vidéo par Cyril Test et son collectif à l'Odéon, Atelier Berthier, attention, jusqu'au 21 décembre, sans évidemment l'économie de moyens et d'artifice imposé par le dogme danois, avec l'excellent Hervé Blanc dans le rôle peu ragoûtant du père et le non moins excellent Mathias Labelle dans le rôle du fils. Fabienne,
C'est un beau spectacle, intelligent.
Ben, dites ça avec un peu d'enthousiasme,
oui,
alors.
Oui, parce que je trouve que le texte Festen, d'abord, on a beaucoup vu le film, on a beaucoup entendu parler, et je trouve que le texte, même si c'était une pièce au départ, avant que ce soit le film de Wittenberg, je trouve que le texte est un petit peu dépassé. Un petit peu falot, un petit peu faible, et que finalement le travail magnifique de Cyril Test, notamment la vidéo, moi ça m'ennuie souvent de voir l'usage un peu excessif de la vidéo au théâtre, mais là il arrive...
Il n'y a plus un spectacle sans vidéo aujourd'hui. Hein.
Non, mais là il a vraiment une écriture qui complète le texte. Par exemple, on apprend que le père, comme vous l'avez dit, a violé ses deux enfants, deux jumeaux, et la jeune fille a fini par se suicider, et on la voit sans arrêt, en leitmotiv. Alors là, ça apporte quelque chose, parce qu'elle est comme dans un songe, elle est comme dans la tête du personnage principal, son frère qui a décidé de révéler la vérité. Et ça, la vidéo, elle est formidable pour ça. Mais sinon, quand je pense que j'ai vu certains de mes confrères comparer la pièce à Hamlet, alors là, et le personnage principal à Hamlet, justement, j'en suis...
C'est à cause de la pièce.
Mais quelle ressemblance, parce que ça se passe au Danemark, c'est un peu
non,
court quand même.
Pas seulement, mais c'est aussi quand même rapport avec le père et...
Bah, le père d'Hamlet ne l'a pas, oui, ne l'a pas violé, père, au contraire, non, il ne non, songe non, qu'à le venger, donc c'est tout simplement l'inverse, il adore son
oui,
père.
Si c'est l'inverse, c'est donc qu'il y a un lien possible.
Oui. Enfin, bon, donc, moi j'ai trouvé le texte faible, mais le travail remarquable.
Jacques.
Moi, j'ai rarement vu une mise en scène aussi intelligente. Je suis ébloui par le travail de Cyril Test, par évidemment cet entremêlement de la vidéo et du théâtre. Il dit que c'est une performance filmique, mais c'est aussi une performance théâtrale. C'est magnifique comme travail. Je suis ébloui par le décor aussi, et l'utilisation du décor, l'intelligence de ce décor qui est
articulé. Il reprend celui du film, d'ailleurs.
Qui est à géométrie variable. Oui, mais là, il y a un mouvement. Ça nous permet d'entrer dans des pièces différentes au même moment.
Mais au service
de quoi ? C'est remarquable. Au service d'un texte très fort, à mes yeux, pas seulement pour l'histoire de l'inceste, mais surtout à cause de la surdité de la bonne société danoise qui refuse cet aveu d'inceste qui
ce qui était déjà l'histoire du film, hein. Enfin, c'était
oui, mais pourquoi on raconterait pas à nouveau le film, parce que Fabienne a dit
oui,
tout le monde
ça,
l'a vu d'abord, tout le monde l'a pas vu,
un quart d'heure.
Excusez-moi Fabienne, mais je crois que d'abord tout le monde n'a pas vu le film, et d'autre part, même si on a déjà vu Phèdre, on a déjà vu Andromaque, et pourtant on a plaisir à les revoir, et moi pour ma part j'ai vu le film, j'ai vu la mise en scène de Benoît qui était bonne d'ailleurs, mais là J'ai eu un plaisir immense et tout à fait renouvelé. Vous avez parlé des acteurs, des deux principaux acteurs. Ils sont extraordinaires tous. Alors, il n'y a qu'une chose qui n'a pas marché pour moi, c'est le côté
les
olfactif. Je n'ai rien. Je ne sais pas, j'avais pourtant pas
alors,
le même.
Il faut rappeler le principe quand même.
Oui, mais principe, oui, c'est qu'en principe, on devrait sentir certains parfums. Et je suis désolé, c'est pas venu jusqu'à mon fauteuil.
D'odorama où on
voilà,
nous promet.
Odorama.
Voilà, d'odorama
mais
où
y a
on
y a
nous
tout,
promet
y a...
de sentir le feu de bois, le sous-bois et le parfum de Linda, cette sœur suicidée.
Oui, bah, en attendant, moi, j'ai rien senti du tout.
Il faudrait jouer ça ailleurs que dans ce palais des courants d'air qui est la grande salle de Berthier.
C'est
pour ça qu'on ne peut rien sentir. Parce qu'il y a aussi, alors, c'est candide en même temps. Il y a un vrai repas.
J'ai vu le spectacle à Annecy et je n'ai pas senti non plus.
Oui, même à Annecy. Ah oui.
Mais non, on ne sentait rien du tout.
Ah,
donc là, il y a quelque chose.
Vous l'avez vu à Annecy, vous
oui, Jacques, oui, oui, oui.
Et d'un chic, celui-là.
Mais, oui.
Mais ça, c'est un petit gimmick. Enfin, cette histoire d'odorama, ce n'est pas très
bon,
important.
Alors, je ne trouve pas ça très important.
Spectacle.
Mais le spectacle.
Qu'est-ce que vous en pensez de ce festin?
Moi, je rejoins Jacques. C'est-à-dire qu'effectivement, la mise en scène, elle est brillante, elle est impressionnante. Et l'utilisation que fait Cyril Test de la caméra est tout à fait pertinente. Parce que il nous montre toujours le hors-champ, il nous montre d'autres angles de ce qu'on voit.
Ce qui était
voit.
Le cas déjà dans les années
absolument.
Où la vidéo, puisqu'on parlait d'un film porté à la scène, où la vidéo avait le même
donc
usage.
Les années d'Ivo Vonov, mais il s'inscrit effectivement complètement dans la même utilisation de la vidéo sur scène que celle que fait Ivo Vonov. Là, elle est antidote dogme au possible, dans ce sens où les lumières sont extrêmement travaillées, où c'est, même si c'est des caméras portées à l'épaule, il n'y a pas du tout un effet un peu nauséeux qu'on a au cinéma. Là, on dirait un travelling magnifique, c'est très posé, c'est très, très beau.
Le film, c'était protestant. Hein,
absolument, c'était... absolument. Et moi, je suis assez stupéfaite de ce texte et de cette histoire qui résiste 20 ans après. C'est-à-dire qu'effectivement, on connaît le film par cœur, le théâtre,
mais
on l'a...
Mais pas tout le monde.
Mais même si on l'a pas vu, peu importe. On l'a plusieurs fois vu au théâtre. Et là, les effets de révélation, pour moi, sont toujours aussi saisissants, même si je les connais. Le petit bémol, moi, que j'apporte, c'est que contrairement à Jacques, en tout cas, je l'ai vu le soir de la première à Paris, alors peut-être sous l'effet du trac, du stress d'une première parisienne, les comédiens étaient quand même assez crispés, en tout cas dans la première partie.
Mais c'était mieux à Annecy.
Donc c'était très difficile. Mais à l'heure des charges, ce que demande le metteur en scène aux comédiens est extrêmement difficile parce qu'ils ont les contraintes du théâtre et du cinéma.
Armel.
Ben oui, ils ont les contraintes du théâtre et du cinéma, mais c'est pour ça qu'ils ont fondé ce collectif et qui travaillent ensemble depuis une quinzaine d'années. Et c'est vrai qu'avec ce spectacle, ils atteignent un niveau technique absolument parfait. C'est vrai que c'est beaucoup mieux cadré que pour Nobody, le précédent spectacle. La caméra est d'une fixité incroyable. Quand elle se déplace, ça tremble pas. Il faut vraiment, je sais pas comment ils font, parce que c'est même pas à l'épaule. Ils l'ont comme ça dans les bras,
c'est pareil pour les damnés. Hein.
Ouais, c'est absolument.
C'était à la main.
Très très beau d'un point de vue réalisation. Mais moi, je suis un peu comme Fabienne Pascaud, c'est-à-dire que le texte, il est quand même, une fois que la révélation est donnée, et que personne n'a l'air d'entendre ce que dit ce Christian, le fils, le frère de Linda, la jeune morte, c'est ça qui est le plus saisissant, c'est que c'est comme s'il n'avait rien dit. Et après, c'est vrai que ça avance, mais pas très vite.
Il y a des scènes terribles.
Ah non, il y a des scènes formidables.
Par exemple, la mère
elle est incroyable. Elle est épouvantable parce qu'elle ne veut rien entendre. Elle sait tout, elle ne veut rien. Moi, je voudrais saluer une autre actrice parce que les garçons sont formidables. Mais par exemple, Sophie Catani, qui fait l'autre sœur, j'ai trouvé aussi remarquable. Donc, c'est vraiment un spectacle pour lequel on prend un grand plaisir de narration, de jeu, mais le texte n'est pas d'une aussi grande force qu'il pourrait l'être.
Allez, Festen, c'est à l'Odéon,
un très très beau travail.
L'Odéon Atelier Berthier, et c'est d'après le film, vous l'avez compris, de Winterberg. Bella Figura, la nouvelle pièce de Yasmine Reza au Rond-Point. Et là, c'est jusqu'au 31 décembre, une pièce qui est à l'origine, il faut le rappeler, une commande de Thomas Ostermeier pour la Schaubühne, et qui a été présentée d'ailleurs il y a 2 ans en allemand, dans mon souvenir, aux Gémeaux de Sceaux. Cette fois, c'est donc Yasmina Reza qui met en scène elle-même son propre texte avec Emmanuel DeVos, Louis-Do de Langsin, dont d'ailleurs Armel a découvert les fesses, je crois, pour la première fois.
Oh, ça doit pas être la première fois avec Louis-Do, non?
Ah, je sais pas, non.
Mais je sais pas, je voudrais pas devenir la spécialiste
des fessiers, si.
Vous savez que je suis interviewée pour des émissions de télévision comme une grande spécialiste. Alors, faut que je fasse l'histoire de la nudité à travers les âges du théâtre.
Vous êtes une grande critique du derrière.
C'est terrible ce qui m'arrive.
Michel Escaut, Camille Japy, Josiane Stoleru, qui a, on peut dire, tout joué dans sa vie. Je crois que c'est la première fois qu'elle s'assied au théâtre sur la cuvette des toilettes pendant un long moment. Et elle s'essuie aussi. Je vous dis ce que j'ai vu.
Avec sa culotte.
Ah, ça, je sais pas, j'ai pas regardé en dessous.
C'est ça qui est ridicule. Ouais.
Ah bon?
C'est ça qui est un peu glauque.
C'est ça qui est glauque.
Vous êtes sûr de ce que vous
dites? Ah oui. J'ai bien regardé.
C'est la phrase que je voulais entendre. Tout commence sur un parking du Sud-Ouest, ça fait pas rire du tout Jacques Nerson, où trône une voiture jaune poussin, celle de Langsin, Langsin alias Boris Hamet, qui est patron d'une fabrique de véranda ou de miroir, je ne sais plus, au bord de la faillite, et qui emmène au restaurant sa maîtresse Andrea, qui elle est préparatrice en pharmacie, et c'est Emmanuel DeVos, un resto que, alors c'est pas du meilleur goût, que la femme de Boris lui a conseillé. Et au moment de repartir, en faisant une marche arrière, Boris manque écraser une vieille dame qui était venue au restaurant avec son fils et sa belle-fille, laquelle est une amie de la femme de Boris. Bon, si vous me suivez pas, c'est pas grave, vous avez en gros compris que c'est le début sur les chapeaux de roue d'une pièce qui s'achemine, selon un principe qui est cher, pour le coup, à Yasmina Reza, vers des moments de grande violence, où tout explose et où les masques tombent. Alors, vous avez fait devant cette pièce... Bonne ou mauvaise figure, Charlotte ?
Assez moyenne, à vrai dire, parce que je trouve que le début du spectacle marche assez bien. C'est-à-dire, à partir de ce petit détail d'un restaurant recommandé par sa femme, la maîtresse ne veut plus y aller.
Un restaurant à la campagne, il faut le préciser.
Oui, à la campagne, c'est en province. Et il y a là, voilà, un petit détail qui va mettre le feu aux poudres. Et effectivement, la soirée ne va pas du tout ne se passer comme prévu. Et partant de ça, je me suis dit, bon, bah, y a deux voies possibles, c'est-à-dire où la pièce va se déployer dans une sorte de comédie assez féroce, assez acide, où tout va exploser, ou alors quelque chose de plus mélancolique, un peu désenchanté, puisque ça va révéler les personnages dans leur empêchement,
ça
leur paralysie et leurs limites.
Hein.
Oui, mais là, c'est ni l'un ni l'autre. C'est finalement qu'un petit drame bourgeois d'un vaudeville qui va pas très loin. Alors, c'est pas désagréable parce que évidemment, c'est bien écrit, parce qu'il y a des répliques
très bien jouées, surtout
mouche. Voilà, Josiane Stolleru, elle est extrêmement bien servie. Chacune de ses répliques provoque l'hilarité du public. Les comédiens sont merveilleux, mais sur le texte, moi, ça m'a laissé un peu sur ma faim, si je puis dire. Et alors, j'étais assez perplexe quand même avec Louis-Do de Langsin. C'est-à-dire, moi, le soir où j'y étais, j'avais l'impression qu'il n'était pas vraiment là.
Ah bah c'est drôle, parce que moi, j'étais aussi, mais c'était la semaine dernière, et j'avais l'impression qu'il n'en avait rien à faire.
Mais oui, qu'il était un peu en pilote automatique.
Même au moment des saluts.
Il traverse la salle de façon assez fantomatique. Et je me suis dit, mais en même temps, le personnage est comme ça, puisque sa vie lui échappe, il pense à autre chose, il a des problèmes de boulot, de véranda, tout ça, donc il se laisse faire. Alors, je me suis dit, bon, mais où il le joue,
fabrique des vérandas. Non,
oui, c'est vrai, ce sont pas les vérandas de Stéphane Bern. Hein. Ce sont
non,
des vérandas.
Voilà, des vérandas,
banales, je veux dire. Hein.
De pavillon, voilà.
C'est pas les fameuses vérandas.
Et alors là,
de
je
Stéphane,
me suis dit, mais alors, où l'acteur, effectivement, n'est pas là, ou alors il joue tellement bien le type pas là que j'ai l'impression qu'il n'est pas là. Donc je ne sais pas, mais il n'était pas là.
Moi, j'ai le même sentiment. Armel.
C'est une écriture très fine, très légère, très ténue. C'est du Yasmina Reza pur. Elle est dans cette atmosphère-là. Elle cherche plus les atmosphères que la réalité profonde psychologique des êtres. Elle n'écrit pas gras. Elle écrit très peu. La pièce, on la connaissait puisqu'on l'avait vue jouer par des très grands comédiens de la Shaobun. Donc on la connaissait. On savait ce caractère très léger,
léger.
Ouais, mais, là, je suis pas d'accord avec vous, Armel. C'est que moi, j'aime beaucoup le théâtre de Reza, beaucoup, beaucoup. Je l'ai à peine reconnue dans cette pièce-là.
Ah si, c'est tout à fait elle. C'est-à-dire, si vous mettez à part Conversation après un enterrement et Art, qui sont les deux premiers chefs-d'œuvre immarcessibles de tout ce qu'elle aura écrit, elle aime écrire léger, elle aime écrire comme de la fumée. Et après, là, comme elle dirige les acteurs, elle les dirige d'une façon très légère aussi. Donc c'est la personnalité de chacun qui s'impose.
Est-ce que vous avez aimé, Armel ? J'arrive pas à savoir.
Oui, on passe un bon moment, franchement. Moi, j'ai trouvé Emmanuel
DeVos. Oui, on passe un bon moment et on l'oublie
absolument
deux jours après.
Mais ça fait rien, ça peut arriver. C'est comme une bulle de savon, c'est comme... Ça ne bascule pas dans le vaudeville, parce que ça pourrait basculer dans le vaudeville. Il y a des scènes, effectivement, la grand-mère sur la lunette des toilettes, c'est peut-être pas la peine. Je me souviens plus comment faisait Thomas Ostermayer. C'était la même façon. Oui. Hein.
C'était mieux amené.
Mais c'était
très mal monté par Ostermayer, à mon avis. Mais bon.
Voilà, elle ne prétend pas avoir écrit Phèdre. Elle a écrit Bella Figura. D'ailleurs, elle prend faire bonne figure. Ben, faisons-nous aussi bonne figure. Soyons de bonne humeur. On a un plateau d'acteurs absolument formidable. Moi, le soir où j'ai vu Louis-Do de Langsin, il était parfaitement présent et
parce qu'il savait
très intéressant.
Savait que vous étiez là.
Très intéressant, un peu fuyant, un peu lâche comme le personnage l'est, un peu abattu.
Il savait qu'il vous montrait ses fesses ce soir-là.
Non.
Fabienne.
Moi, j'ai trouvé que c'était rien, quoi. Je me suis ennuyée, j'ai trouvé le temps long. Alors, Armel, vous parlez de chef-d'œuvre de Yasmina Reza, c'est quand même poussé un peu loin le bouchon, même si c'est vrai que c'est un grand auteur de théâtre. Oui, mais enfin, là, on se rend compte qu'elle pousse son écriture jusqu'au bout, et il reste pas grand-chose, parce que quand elle met en scène ça devrait être au contraire, on devrait comprendre tous les non-dits qu'il y a entre les mots, les brisures, les déchirures, tout ce climat de solitude, le désir qui disparaît, le couple qui fout le camp, la vieillesse qui vient, et il se passe rien.
Bah, vous l'avez quand même senti puisque vous en parlez.
Bah, il se passe rien parce que j'ai quand même essayé de lire la pièce et de voir ce qu'il pouvait y avoir. Mais là, c'est filandreux, et surtout, elle pose à la metteuse en scène et avec une en prenant
non,
des temps,
en
prenant des tempos, c'est ridiculement long.
C'est beaucoup on mieux mis en scène que par Ostermeyer qui prenait Yasmina Tropo, Yasmina Reza Tropo
tragique.
Oui, mais
Ostermeyer, il faisait au moins une belle mise en scène. Et
je
ne
sais pas ce que
rien.
Veut dire une belle mise en scène. Quand
une
quand
mise
ça
en
va,
scène spectaculaire
quand,
avec des effets de réel formidables.
Ça rend un texte moins
elle
intéressant.
Copie,
qu'il
on parlait de la vidéo. Elle copie Ostermeyer et les vidéos
non,
qu'il faisait derrière. Mais bien sûr que
tout,
si, lui faisait des insectes et
elle essaie de passer d'une scène à l'autre.
Expliquez-moi pourquoi il y a besoin de vidéo. Alors, on a parlé de la vidéo pour Cyril Test. C'était formidable.
La vidéo dans la pièce, ce ne sont que les intermèdes.
Ça sert à changement de décor.
Ça sert à quoi?
Elle meuble.
Elle meuble. Ça meuble les changements de décor.
Ça va se terminer comme dans une pièce de Reza, vous allez tous vous taper dessus. Alors, Jacques,
mais si vous voulez, je ne suis pas d'accord.
Est-ce que vous pouvez comprendre qu'on soit moins sensible à cette pièce qu'à d'autres?
Je peux parfaitement comprendre qu'on soit moins sensible à cette pièce qu'à ces autres pièces, notamment à deux pièces que je considère comme des chefs-d'œuvre, qui sont Art et Le Dieu du Carnage, qui sont deux comédies beaucoup plus franches. Alors que là, effectivement...
Bonne pièce, mais pas des chefs-d'œuvre.
Je pense que ce sont des chefs-d'œuvre. Non, mais je pousse, si vous voulez, mais je le crois. Et là, je pense que c'est une pièce qui est moins... qui me touche moins, me fait moins rire, surtout. C'est une pièce plus mélancolique, qui parle des ratages, qui parle des catastrophes, des gens qui passent à côté les uns des autres, etc. Mais Yasmina Reza le fait avec une qualité qu'elle a, c'est d'abord un humour qui est toujours présent et qui n'était pas présent chez Ostermeyer. Et là, les personnages à tout moment ne sont pas loin de rire et à certains moments, ils rient de leur propre, ratage d'ailleurs.
Mais
c'est
ça,
pas la seule.
Ça vient beaucoup de la personnalité des comédiens parce que Michel Lescaut,
je crois que c'est très présent chez Yasmina Reza qui est comme ça, chez elle, le rire est jamais loin des larmes et quelquefois c'est simultané et je trouve que c'est très présent dans ce spectacle. Il y a un humour sous-jacent, c'est pas une franche comédie, je crois. Que nous devenons tous très exigeants parce qu'après Art et après Le Dieu du Carnage qui sont des succès internationaux, c'est incroyable, c'est joué dans le monde entier.
Et Art
évidemment,
on
voudrait retrouver chaque fois la même réussite. Et là, non, c'est une pièce à mes yeux moins intéressante. Mais la dernière,
pourquoi
je n'aime pas beaucoup.
Sur cette grande salle, l'espace géant, la tue.
Non, je pense qu'elle fait. Je pense qu'au contraire, il faut l'avoir sur un espace assez large pour qu'elle respire bien.
Bella Figura, c'est donc de Yasmina Reza, et c'est au théâtre du Rond-Point. Les Trois Sœurs, plutôt ce qu'il en reste, c'est sur le papier la pièce de Tchekhov, créée, je crois que Jacques y était à Moscou en 1901. Et là, c'est à l'Odéon jusqu'au 22 décembre, un spectacle singulier de l'Australien et artiste associé Simon Stone, avec entre autres Amira Kazar, Eric Caravaca, Céline Salette, Frédéric Pierrot, Héloïse Mignon, Assad Bouab. On a compris que Stone, 33 ans, a choisi de moderniser Tchekhov, qui est évidemment une vieillerie, pour ne pas dire une antiquité. La maison perdue dans la campagne russe où les trois sœurs Olga, Masha et Irina rêvent de retourner à Moscou est devenue une résidence secondaire écolo pour Bobo, genre cube à baie vitrée. Moi, je ne suis pas sûr que j'y habiterais. Où le Morito a remplacé la vodka et l'hyperconnexion, évidemment, la solitude. Quant au texte de Tchekhov, il n'en reste pas grand-chose. Je remarque d'ailleurs, après la pièce de Reza, un retour en force DVC dans le théâtre contemporain. Non, mais c'est vrai. Dans la maison. Hein,
c'est un lieu de vie. Aussi.
Mais c'est toujours un lieu de vie. Enfin, moi, je sais pas.
Mais rappelez-vous, dans À 50 ans, elle découvrait la mère de Denis Chalem. On voyait.
Oui, mais là, il trouve
que
la
comédienne sur le trône aussi.
Vous dites le trône, vous c'est votre côté royal,
c'est
ça.
Mon côté.
C'est un peu à l'ancienne. Je vais sur le trône, c'est un peu. Non, sérieusement, c'est vrai qu'à une semaine d'intervalle, on voit que ça joue un rôle important. Ces trois sœurs, qu'est-ce que vous en pensez, Armelita?
Oui, les trois sœurs, il n'en reste rien. C'est déjà un mensonge éhonté que de prétendre qu'il monte les trois sœurs. Il n'en a rien à faire.
Non, mais
dit rien
d'après,
du tout.
Quoi,
oui, mais enfin, les affiches dans Paris, on voit les trois sœurs et il y a écrit les trois sœurs.
De Simon Stone.
Mais vraiment, c'est même pas d'après les trois sœurs. Ce que je comprends pas, c'est que ce garçon, dont on a vu, moi je n'ai vu que 3 spectacles. J'ai vu une Médéa, intéressante à la fin du printemps à l'Odéon, parce que d'abord il y avait des acteurs néerlandais absolument exceptionnels, et en particulier la femme qui jouait Médée.
Parlons, si vous voulez bien, remettre
non, mais,
de ce spectacle.
Parce qu'il fait ça tout le temps. On a vu Ibsen passer à la Moulinette cet été, devenu un feuilleton américain sans aucun intérêt, sauf qu'il y avait des grands acteurs là encore. Mais là, mais c'est navrant, quoi. Moi, j'avais envie de pleurer quand j'ai vu ça, parce que on peut même pas citer un acteur tellement ils sont écrabouillés. Mais il n'existe pas. Je sais Eric que je vais Caravaca. Entendre des personnes qui prétendent avoir vu un spectacle. C'est rien du tout. Il lui manque un peu de réflexion à ce pauvre garçon de 30 et quelques années.
33.
Parce que s'il pense que Tchekhov est vieux, s'il pense que monter Tchekhov, comme c'est écrit, c'est être vieux, c'est qu'il n'a rien compris ni à la vie ni au théâtre. Je le plains. Et je plains les gens qui le portent au nu, parce qu'il y en a à cette tribune d'ailleurs.
Même ceux qui l'ont mis au monde.
Ah non, mais c'est pas possible. On s'ennuie. On s'ennuie. Ils ont des gros boutons sur la joue là, parce qu'ils ont tous des micros. La petite maison, elle tourne évidemment.
Oui, c'est une maison tournante.
C'est pour permettre aux acteurs de ne pas avoir à se déplacer, nanana. Mais pas du tout. Ils passent leur vie à courir, à grimper des escaliers, à l'air descendre
grande,
en courant.
La maison est grande.
Elle est très grande la maison. Il y a tout ce qu'il faut. Jérôme vous a parlé des toilettes et de la salle de bain, de la baignoire, de la douche. Il y a une cuisine très bien équipée. Il y a l'eau courante. Il y a tout ce qu'il faut. Mais on s'ennuie.
Ça
ne veut rien dire. Ça n'a plus rien à voir avec les trois sœurs. Ça n'a plus rien à voir avec Tchekhov. Il avait qu'à appeler ça, comme a dit un de nos confrères, moi et mes trois meufs. Et ça aurait été beaucoup mieux. Je crois que c'est Jean-Pierre Thibaudat qui a écrit ça.
Fabienne ?
Bah moi, je fais partie des crétins, cher Armel, qui ont aimé.
Non, c'est pas des crétins, mais tu m'inquiètes. C'est pas du tout crétine, mais tu m'inquiètes.
Non, parce que
d'abord, tu m'inquiètes.
Je ne me suis pas
T'as peur
ennuyée.
De rater les trains.
Mais non, pas du tout. Je ne me suis pas ennuyée une seconde. Non, j'ai trouvé que certes, à la lettre, c'était pas du tout Tchekhov et que le d'après Tchekhov était très loin. C'était plutôt une rêverie autour de Tchekhov, autour de ce qu'inspire Tchekhov. Il faut d'ailleurs remarquer qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a énormément de jeunes metteurs en scène qui réécrivent Tchekhov. Julie Deliquet, on s'est émerveillé de son Vania. Elle a complètement réécrit son Vania.
Oui, mais et là, enfin,
ça restait Vania.
Mais il
excuse-moi.
Ne trahit pas. Il ne trahit pas. Il montre des gens paumés d'aujourd'hui en collectivité, comme toujours chez Tchekhov, où c'est toujours choral et qui vivent, où il n'y a pas de héros, où tous les personnages sont aussi importants et qui vivent avec douleur le présent, le moment qu'ils vivent là, qui n'ont plus de racines,
ils ont des pensées ridicules
mais non, ils n'ont pas de pensées
lectures,
on ne peut pas dire que dans les trois sœurs, Armel il y a forcément des pensées géniales c'est
non,
tout ce qui fait la magie
sincères.
De Tchekhov.
Elles
la
sont
banalité,
nobles et sincères.
La banalité, l'ordinaire, et quand ça déboule sur scène à Moscou. Mais non, on s'en fout pas. C'est ce qui a fait sa force. Pour la première fois, on voyait des personnages.
Mais
c'est Tchekhov, ça.
Mais non.
Pour la première fois, on voyait des personnages qui n'avaient rien à dire en scène que la banalité et l'ennui du quotidien.
Mais tu ne peux pas penser ça.
Mais non, je ne répète pas.
Tu ne peux pas penser de Tchekhov qu'il fait parler des gens qui n'ont rien à dire.
C'est pas vrai.
C'est pas vrai.
Mais pas du tout. Moi, je ne me suis pas ennuyé une seconde. Et si c'est vrai qu'il y a un côté série télé dans sa manière de filmer, dans sa manière de raconter, tant mieux. Tant mieux, ne soyez pas des vieux cons.
Non, mais c'est pas la question.
Je préfère que le théâtre change.
Tout ça est
très aimable. Je préfère être une vieille conne et pas regarder la télé, aller au théâtre, voir vraiment les trois sœurs.
Non, mais, enfin, il me semble que...
Sauf que je ne vous ai pas donné la parole, hein, donc... J'ai demandé à la troisième sœur de ce plateau,
alors,
Charlotte.
La troisième, la plus jeune, celle qui regarde des séries télé. Bon, on aura compris qu'on ne voit pas les trois sœurs, ça c'est clair. Néanmoins, on voit quand même un spectacle. Et si on accepte de se dire que ça n'est pas du tout le texte de Tchekhov, si ce n'est trois prénoms des personnages et à peu près la situation de base et encore, il nous propose quand même quelque chose qui est pas inintéressant. Moi, je crois que Stone est beaucoup plus intéressé par l'époque que par ses personnages. Alors, c'est vrai que la réécriture du texte est extrêmement référencée sur notre époque. On parle de Donald Trump, de quelqu'un qui est vegan, de Apple, d'aller faire la fête à Berlin avec des extasies.
Oui, qu'il n'appelle pas ça les trois sœurs, arrête.
On est d'accord.
Mais il écrit sa petite rédaction, ce pauvre garçon.
Armel, mettons de côté Tchekhov. Après, il propose quand même quelque chose au plateau.
Mettons
moi, je me suis pas ennuyée sur le plateau, je ne me suis pas ennuyée une seconde. Et là où je rejoins Fabienne, c'est qu'effectivement, il y a quand même un naturalisme dans le jeu qui est extrêmement intéressant. Ça va très vite, les paroles se chevauchent. Il y a une espèce de spontanéité limite de l'improvisation portée par les comédiens qui est assez forte, enfin qui nous prend et qui nous empêche de nous ennuyer. Donc voilà, oublions Tchekhov et le spectacle de Simon Stone avec trois filles dans une maison en 2017. Voilà.
Jacques, trois filles, il y a toute une fille, il y a toutes les gens qui n'ont rien à faire et qui ne disent que des choses insipides.
Ce que Tchekhov raconte quand même au départ, c'est l'histoire de trois filles et leur frère. La mort de leur père les laisse dans la gêne financière et donc elles ne vont pas pouvoir réaliser leurs rêves alors qu'elles en parlent tout le temps. Elles voudraient rejoindre la Terre promise, c'est-à-dire
retourner à Moscou,
et elles en sont empêchées par la pauvreté. Or là, il n'y a pas de pauvreté. Donc, on voit des babas qui discutent dans une maison, qui discutent
taille. Non, personne n'est pauvre.
Non, c'est pas, ils sont pas obligés. C'est le frère qui a fait faillite. Les filles ne sont pas pauvres.
Pas la racheter.
Et donc, toute la problématique des trois sœurs disparaît. On voit des bobos bavarder à perte de vue. Alors, je propose, moi, qu'on réécrive le Cid et que Rodrigue soit lâche et ne puisse pas se battre contre le père de Chimène. Je propose qu'on réécrive Phèdre et que Phèdre ne soit plus amoureuse d'Hippolyte du tout. Qu'on monte en avare où l'avare jetterait l'argent par les fenêtres. C'est-à-dire que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et là, je vais vous rejoindre un petit peu, c'est n'importe quoi quand même bien fait, car je trouve que si l'idée est idiote, mais vraiment idiote, mais c'est bien réalisé, c'est vrai.
C'est une bonne idiotie donc, à vous entendre.
Non, je considère pas qu'il faille y aller, mais je reconnais que les acteurs sont bien dirigés, que ce sont de bons acteurs, et que l'utilisation du décor tournant est assez brillante.
Bien
mais
sûr,
c'est une stupidité.
Temps,
c'est une stupidité, pardon, excusez-moi, mais c'est une connerie.
Bien. Les trois sœurs, je vois que ça. On n'est pas content du côté du collège Marie Curie. Vous l'avez vu également, le spectacle? Ou pas? Non, vous ne l'avez pas vu.
Allez-y.
Donc. Alors, si vous y allez.
Télérama
après, vous
invite.
Écrivez à Télérama. Allez, encore un. Donc là, c'est donc les trois sœurs, enfin, j'ose plus dire ça, de Tchekhov, et c'est à l'Odéon. Encore un Molière, un après les fourberies, donc, et Tartuffe, Le Malade Imaginaire, que Armel avait conseillé en fin de Dernier Masque, pièce que jouait Molière avant de mourir. Je crois qu'il était d'ailleurs à son chevet en 1673, Jacques.
C'est un ami de son père.
C'est. J'entends mal.
C'est sa grand-mère, plutôt.
C'est mise en scène au théâtre des Jazets par Michel Didim avec en alternance, il faut me suivre là, hein, dans le rôle titre André Marcon ou Michel Didim. Pourtant, ce n'est pas du tout le même emploi.
Non.
En alternance pour Toinette, Nora Krief ou Agnès Sourdillon, ça se rapproche un peu plus. En alternance dans le rôle d'Angélique, Jeanne Lepers ou Pauline Uruguen. Ou encore Catherine Matisse qui est Béline, les Diafoirus étant Jean-Marie Frein et Bruno Ricci. Là, je vous pose la question, purge ou saignez ce malade, Fabienne?
Ben écoutez, alors là, c'était pas les trois sœurs.
Là, c'est Molière.
Mais là, c'est vraiment c'est Molière. Eh ben, j'aurais préféré qu'ils trahissent un peu plus Molière, quoi. Donc, parce que c'est propre, c'est honnête, c'est tous les vers y sont, toutes les répliques y sont, mais c'est terne. Et moi, j'ai vu ça avec Michel Didim. Alors, peut-être que André Marcon le joue avec plus de... c'est un magnifique acteur. Michel Didim, il est plutôt metteur en scène qu'acteur. Mais c'est vrai que le texte est tout à fait là. Et la relation si courageuse de Molière face à la mort, son courage de dénoncer les médecins, il va mourir bientôt. Tout ce qu'il raconte sur le couple, sur la solitude, l'égoïsme... Mais bon, la première scène, je pensais à Michel Bouquet quand il lit l'ordonnance. C'est un grand rôle de Michel Bouquet. Quand il lisait son ordonnance, c'était jouissif la manière dont il détaillait chaque médicament qu'il allait prendre. Là, Michel Didim, on se dit, mais merde, quand ça va se terminer, cette ordonnance-là? Donc, bon, j'ai un peu honte d'en dire du mal, mais j'ai trouvé ça parce que visiblement, c'était avec plein de bonnes intentions. Ah, et c'est vrai qu'on entend le texte. Et c'est vrai que dans la salle, il y avait un jeune public qui était content d'entendre ce texte qu'on ne monte pas si souvent. Mais je trouve ça hyper raplapla.
Jacques?
Sur le fond, je suis d'accord. Il se trouve que j'avais vu le spectacle avec André Marcon il y a 3 ans. Je ne l'avais pas beaucoup aimé.
Annecy.
Annecy ou ailleurs, je ne sais plus. Et j'y suis retourné par acquis de conscience. Je suis malheureusement tombé sur effectivement Michel Didim, qui joue comme un metteur en scène. C'est-à-dire que, en fait, il explique toutes ses intentions. C'est d'un casse-pied, c'est épouvantable. Par ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ils sont allés chercher des intermèdes qu'on ne joue plus d'habitude, les histoires de Polichinelle, etc. C'est assommant. Ils veulent faire des intermèdes musicaux. Ils ne savent pas chanter, ils ne savent pas danser. C'est mauvais, c'est épouvantable. Donc, voilà, c'est un spectacle qu'on ne peut pas recommander.
Armelle, vous ne revenez pas sur votre...
Non, je ne veux pas revenir. Je l'avais recommandé en fin d'émission, parce qu'en en fin d'émission, on cherche des spectacles qui peuvent plaire à beaucoup de gens. Ah et bon moi, je continue de penser que ce maladie...
Bah oui.
À la fin de l'émission, tu sors quelque chose qui va être encore joué quand l'émission sera diffusée.
C'est le pourboire, quoi.
Non, pas du tout. Et moi, j'ai vu... Et moi, je me souviens très bien de ce que j'ai dit. J'ai vu André Marcon, qui était remarquable ce jour où je l'ai vu. Et puis, je disais aussi que c'était agréable d'imaginer qu'au De Jazé, à nouveau, il y avait du vrai théâtre, du théâtre. Et je me souviens parfaitement de ce que j'ai dit. Je recommandais autant le De Jazé que le spectacle. Et moi, je préfère voir 3 fois ce malade imaginaire...
Qu'une fois,
seule
les 3 fois, sœurs. Les
qu'une seule sœur. Pas moi.
Une fois suffit.
Pas moi.
Une fois m'aurait suffi.
Hein. Ben alors, moi, je l'ai vu avec André Marcon. Et alors, ça a été mais d'un ennui. C'est épouvantable. Je crois que j'avais rarement vu Molière monter à ce point, c'est-à-dire effectivement de manière si classique. Comme vous le disiez, Fabienne,
on voit que tu vas pas au théâtre
c'est propre.
Avec
ben, c'était une matinée. Enfants. Si, c'était une matinée le dimanche. Donc, il y avait beaucoup de jeunes dans la
faut
salle.
Il faut dire qu'on sort d'un scapa un peu déjanté. Faut dire
mais oui,
aussi,
mais. Hein. Voilà, saisissons-nous de Molière pour, je ne sais pas, en faire quelque chose. Denis Podalydès a 1000 idées à la seconde, et là, il n'y en a pas une en 2 heures de spectacle. Donc, c'est assez désolant. Ça a été, pour moi, voilà, interminable d'ennui. Je trouvais les comédiens, par ailleurs, dans des registres très différents, certains beaucoup en surjeu. André Marcon, il fait le job, comme on dit, puis il a cette voix tellement magnifique que, quand même, c'est un plaisir pour les oreilles. Bruno Ricci aussi, que j'ai trouvé assez excellent. Mais finalement, certaines scènes était vraiment dans la noirceur, la mélancolie, et alors en 2 secondes, la scène d'après, c'était la farce totale, donc je savais même plus dans quelle pièce j'étais. Non, je trouve ça vraiment pas bien, quoi.
Eh bien, le malade imaginaire, je pense que vous allez y courir, c'est donc au théâtre De Jazé, Tous des oiseaux de Wajdi Mouawad, c'est à la Colline, malheureusement jusqu'au 17 décembre. J'espère qu'il y aura une tournée. C'est un spectacle qui est en allemand, anglais, arabe, hébreu, surtitré en français, je vous rassure, avec une distribution très importante. Je ne vais pas la donner intégralement, c'est pas possible. Une pièce sur l'exil dont les oiseaux migrateurs du titre sont les symboles et qui a été inspirée à Mouawad, qui est, je le rappelle, un Québécois d'origine libanaise. Par sa rencontre avec, c'est ce qu'il dit en tout cas dans le programme, avec Nathalie Zemon-Davis, une historienne juive, et qui a fait connaître un diplomate musulman converti de force au christianisme et qui n'est autre que Léon l'Africain, que d'ailleurs si bien raconté, je le précise, par un autre Libanais qu'est Amin Malouf. On appelle cela, dit Mouawad, dans le programme, une rencontre avec l'idée absolue de l'autre. Tous des oiseaux, très beau titre en plus. Qu'est-ce que vous en pensez, Charlotte ?
Moi, je crois que j'avais pas été aussi émue, soulevée, estomaquée par un spectacle d'une telle puissance depuis extrêmement longtemps. D'abord, ça m'a fait très plaisir parce que j'avais l'impression de retrouver le Wajdi Mouawad qu'on a tous tellement aimé il y a une quinzaine d'années avec sa trilogie.
Oh, il n'a pas fait de mauvaises choses depuis quand même.
Non, mais il était ces derniers temps et avec les Sophocles et tout ça, à mon sens, c'était moins intéressant. Et là, j'ai retrouvé tout ce que j'aime chez lui, c'est-à-dire ce don du récit, de la narration. C'est un conteur, mais hors pair. Il revient évidemment à ses tropiques de la quête des origines, l'identité, est-ce que l'identité est finalement génétique ou culturelle, pour faire un peu bref, et il nous embarque dans un récit de 4 heures dans lequel on ne s'ennuie pas mais une seule seconde, avec pour l'une des premières fois, il me semble, une localisation, c'est-à-dire que pendant longtemps, ces spectacles étaient au Moyen-Orient, dans le monde arabe, mais on ne savait pas trop où. Là, c'est très clairement, effectivement, sur ces relations complexes israélo-palestiniennes. Moi, j'ai été totalement subjuguée. Les acteurs sont déments, ils parlent tous deux ou trois langues.
Mais c'est pour ça que j'aurais voulu les citer, mais voilà, ils sont très, très nombreux.
On n'a pas le temps.
Jacques. Bon.
Je partage entièrement cet enthousiasme. C'est un spectacle majeur, un chef-d'œuvre, tant par l'écriture que par l'écriture scénique de Mouawad. C'est vraiment remarquable. Il y a une chose amusante, c'est que ce spectacle, je ne veux pas raconter le spectacle, mais il ressemble, et je pense qu'il ne sait pas assez, à une pièce d'Henri Bernstein qui est peu connue, qui s'appelle Israël. Et dans cette pièce, le prétendant au royaume de France, qui est très antisémite, ça se passe à la Belle Époque, découvre que son père est juif et il le supporte assez mal. Eh bien, il y a quelque chose un peu comme ça dans cette pièce, c'est-à-dire que les gens ne sont pas forcément ce qu'ils croient être. Et donc, c'est
une très belle réflexion. Ne révélez rien.
Non, je
ne
révèle pas plus. Je dis simplement
que
ça joue sur l'identité, effectivement, et que l'identité est plus complexe que quelquefois les gens le croient. C'est très difficile de parler du conflit israélo-palestinien. C'est un écheveau terriblement embrouillé. Et là, je trouve qu'il en parle avec une générosité, une poésie et une intelligence, mais stupéfiante.
Et un humour, même sur des sujets extrêmement sensibles comme la Shoah. Il faut dire qu'il y a quand même aussi des passages où on rit.
Non, c'est vraiment éblouissant.
Fabienne.
Oui, c'est un très beau spectacle. Je partage peut-être pas l'enthousiasme de mes camarades.
Mais c'est embêtant, ça fait plusieurs fois que vous n'êtes pas très enthousiaste.
Oui, ça fait plusieurs fois, mais non, parce que ça dure 4 heures quand même. Mais on ne voit pas
le temps
d'enviser. Il y a peu de choses dans une saison.
On aurait pu filmer une bonne demi-heure, et puis je trouve ça un peu téléphoné.
Il y a peu de spectacles dans une saison qui puissent s'aligner.
La fin que vous ne voulez pas révéler, moi je l'avais compris au bout d'une heure, et je ne suis pas un devin, donc il y a des choses un peu téléphonées.
Vous êtes plus rapide que Jacques.
Mais c'est très bien raconté. L'espace d'Emmanuel Clolus est magnifique, et il y a surtout cette polyphonie, entendre des langues, entendre l'allemand, l'hébreu, résonner ensemble, donc déjà ça c'est assez bouleversant, l'américain, donc ce mélange de langues est assez beau, voir des comédiens qui viennent de partout ailleurs, il y a un côté tour de Babel qui est assez saisissant, et qui sont de générations différentes, de cultures différentes. Moi c'est ça qui m'a émue, qu'il ait réussi à faire comme une œuvre musicale, avec des gens qui viennent de partout, des acteurs très talentueux, très doués, qui viennent de partout et qui se rencontrent sur un plateau. C'est ça, cette dimension politique-là. C'était pas gagné de faire résonner ces langues, de faire se rencontrer ces acteurs qui n'avaient rien à voir ensemble. Et c'est ça que j'ai trouvé beaucoup plus beau que le texte, la saga un peu pompée sur Robert Lepage.
Le texte est très, très beau.
On peut rien.
Armel.
Il est un élève, si on peut dire, de Robert Lepage. Il a appris au
Québec. Il limite beaucoup,
à
quand
raconter
même.
Les histoire à la manière de Robert Lepage, et c'est vrai qu'en particulier la première scène dans une bibliothèque en Amérique du Nord, ça évoque immédiatement Lepage et même l'exposition que Lepage a faite à la BNF il n'y a pas longtemps. Mais il a cet art-là, cet art de conteur, cet art d'enchaîner les scènes, de faire se lier les destins, de se faire se croiser les destins, de faire revenir le passé tout d'un coup, d'une façon inattendue. Parce que c'est ça aussi, et mes camarades le disaient très bien, il y a du suspens, c'est comme un roman policier en même temps.
Ah,
on ne sait pas où on va. Oui, on dit du suspens. Moi, j'ai appris à dire du suspens en quatrième.
C'était juste pour les auditeurs. Parce qu'ils ont
du suspens.
Du suspens.
Et en tout cas, c'est absolument admirable. C'est un travail exceptionnel à tous les égards. L'écriture scénique, le jeu, avoir réuni tous ces comédiens que pour la plupart nous ne connaissons pas, qu'on passe 4 heures à lire des surtitres, et moi qui en ai tellement marre souvent de lire des surtitres, mais là ils sont très accessibles.
Surtout à Avignon,
ça a un sens, toutes ces langues. Il y a un seul mot qu'on entend en français, c'est adieu. Et voilà quoi, non, c'est merveilleux.
Mais expliquez-moi pourquoi ça va s'arrêter donc le 17 décembre à la Colline. Pourquoi est-ce qu'une pièce pareille, un spectacle pareil... Bon, il va tourner quand même.
Oui, ça va tourner.
Mais il faut souhaiter que ça soit repris peut-être la saison prochaine.
De toute façon, il le reprendra.
Le succès a l'air est tellement...
C'est un reproche qu'on nous fait souvent. Je parle des auditeurs du MAS qui n'ont pas forcément l'occasion de venir au Théâtre de la Colline, par exemple.
Il sera à Villeurbanne, en région, donc du 28 février au 10 mars, déjà, l'année prochaine, en 2018. Et puis je pense que c'est le début d'une tournée.
Mais je souhaitais,
parce que
ces acteurs-là ne sont pas disponibles tout le temps.
Oui, mais c'est le cahier des charges de ces théâtres aussi qui sont tenus à présenter plusieurs spectacles. C'est pas comme un théâtre privé où ça peut durer très longtemps.
Il y a que le réservoir du public. Le réservoir du public de théâtre a un peu diminué, c'est vrai.
Oui, mais si le bouche à oreille est bon.
Autrefois, les spectacles se donnaient. Autrefois, les spectacles dans les théâtres subventionnés se donnaient plus longtemps. Et maintenant, c'est vrai que l'exploitation est plus courte.
On peut ajouter aussi que Wajdi Mouawad plaît beaucoup aux jeunes. Quand je dis les jeunes, les adolescents, les jeunes adultes. Il y avait beaucoup de jeunes, moi, quand j'y étais là, à la colline. Et donc, il faut vraiment encourager tout le monde.
Je répète mon regret. Je trouve que c'est dommage qu'un spectacle pareil
se joue si peu de temps.
Allez, je vous demande juste votre sentiment, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, sur Maîtres anciens, le roman du toujours corrosif, atrabilaire Thomas Bernhardt. Ça, là, c'est monté par Nicolas Bouchot au Théâtre de la Bastille, dans le cadre du Festival d'automne, avec Éric Didry et Véronique Timsit, un homme, le narrateur, enfin, on connaît le roman, hein, a rendez-vous dans un musée de Vienne avec un vieux critique musical, dont les colères, les imprécations, les diatribes sur les artistes, les écrivains, les compositeurs, l'Autriche, la religion catholique rejoignent évidemment celle de Thomas Bernhardt. Est-ce que c'est un spectacle, qui est un petit spectacle, est-ce que vous le conseillez ou pas, Jacques ?
Je le conseillerais pas, d'abord parce que je trouve le roman de Thomas Bernhardt parfaitement ennuyeux. Moi, cette écriture du ressassement pour ma part, me casse les pieds. Par ailleurs, Nicolas Bouchot est un très grand acteur. Je l'adore dans les spectacles de Jean-François Civadier. Mais en général, quand il est seul, il se livre à des numéros de pure virtuosité. Il fait d'ailleurs un peu toujours la même chose. Il a le public, on dirait un animateur de jeu télévisé. C'est un très grand acteur, mais je pense qu'il est mieux en compagnie. C'est comme le dit Valérie, un homme seul est toujours en mauvaise compagnie. Je pense qu'il gagne à être en compagnie plutôt que seul.
Fabienne ?
Moi, je conseille, parce que je ne connaissais pas le roman de Thomas Bernhardt, mais j'ai savouré toute la rosserie, la méchanceté, les interrogations de Thomas Bernhardt sur la culture, sur l'héritage, sur la famille, sur les maîtres.
C'est répétitif.
Oui, mais c'est drôle, c'est à la fois drôle, tragique, et il fait une performance lui-même dans une sorte d'espace mental. Il n'incarne pas, il arrive à rendre la langue de Thomas Bernhardt musicale. Ça devient une musique, et ça, je trouve ça formidable. Alors qu'il se moque, que Thomas Bernhardt se moque de Beethoven, se moque de tout le monde, et là, il en fait une musique.
Oui, Armelle.
Denis Marlowe avait monté ce roman et l'avait adapté, mais pour les trois personnages qui sont en présence dans le roman. Et là, je pense que le fait qu'il y ait une seule personne, on perd quelque chose de la structure du roman, c'est un peu dommage.
Le roman, c'est une sorte de monologue. Enfin,
Il y a les référents. Il y a
Mais ce n'est pas un dialogue.
Il ne s'adresse pas à nous public. Mais reste le charme de M. Bouchot, sa virtuosité. C'est très agréable. Mais oui, bien sûr.
C'est tellement féroce que je trouve ça irrésistiblement drôle. Et donc, je dirais que si vous aimez l'art, il faut y aller. Et si vous le détestez, il faut y courir.
Alors ça, c'est donc Maîtres anciens. C'est Thomas Bernhardt et c'est à la Bastille. Et puis, j'ai inscrit pour finir, j'accrocherai sur mon front un as de cœur, qui est le rêve, vous le savez, de Jacques Nerson. Mais c'est aussi un cirque équestre de la compagnie Panozzu, c'est ça ? Panozzo ? Mise en scène par Anne-Laure Liégeois au Théâtre Firmin-Gémier jusqu'au 23 décembre. Alors là, c'est beaucoup en tournée aussi. Spectacle que, malgré la présence des chevaux, je n'ai pas encore vu. Est-ce que je dois y aller ? Est-ce que je dois y galoper, Jacques ?
Je sais pas. J'en sais rien, parce que je crois que Bartabas et Zingaro nous ont rendu un peu difficile. Surtout moi, qui ne suis pas du tout attiré spécialement a priori par l'art équestre.
Ils vous font peur, même.
Oui, ils me font très peur. Surtout ceux-là. En plus, c'est des très gros chevaux. Ils sont magnifiques. Mais voilà, il y a de jolies choses. Est-ce que c'est un grand spectacle ? Peut-être pas quand même. Je sais pas. J'ai peur que les enfants s'ennuient un peu. Il faut vraiment être vraiment fou de cheval pour y trouver plaisir.
J'ai vu que c'était assez rapide. Hein. Ça dure une heure. C'est très, très rapide.
Oui, mais j'ai peur que les enfants s'ennuient quand même.
Armel ?
Il y a un charme d'une sorte de cirque
à l'ancienne.
À l'ancienne. Qui est là un peu ravivée par Anne-Laure Liégeois, parce qu'elle a réinventé des numéros et tout.
Oui, mais c'est vrai qu'il n'y a que des chevaux, il n'y a pas d'autres animaux.
Oh non,
je suis désolée, mais je suis pour la présence des animaux.
Mais c'est toute la famille, il y a le père qui fait Monsieur Loyal, il y a les enfants, les petits-enfants. Il y a un charme formidable dans ce spectacle. Et le cirque, c'est cela aussi. Alors c'est vrai que nous, on a notre grande admiration pour Bartabas. Et c'est là qu'on voit à quel point il est fort, quoi, avec les chevaux.
Si un jour vous lui dites qu'il fait du cirque, vous allez vous en prendre.
Non, oui. Je sais bien.
Fabienne.
C'est oui, du théâtre équestre. Avec Carmel, il y a un vrai charme sentimental, cette famille, ça évoque les cirques qu'on voyait dans les villages, sauf que là, il y a quand même des musiciens qui accompagnent.
Oui, ils sont très bons, les numéros,
d'ailleurs.
Et qui sont très, très bons. C'est vrai que le travail d'Anne-Laure Ligeois, elle a dû trouver une petite famille brute, comme ça, qui faisait du cheval, et elle a réussi à trouver une dramaturgie, à mettre en scène les parents. Il y a une vraie tendresse pour ce monde du cirque, là, qui est visiblement condamné à disparaître, quand même.
Ben oui, c'est-à-dire qu'artistiquement, on est aux antipodes des écritures contemporaines du cirque. Et effectivement, comme Armel le disait, on est dans quelque chose de désuet, de un peu vieillot, de nostalgique. Et en même temps, je trouve que c'est tellement à côté des modes actuels que ça me les rend très sympathiques et très charmants. Donc oui, il y a un charme de l'ancien, comme ça, de quelque chose de très artisanal, de familial. Le spectacle doit beaucoup à la présence des musiciens, on va le dire. Les prouesses techniques sont quand même très limitées, mais c'est joli. Ça plaît aux enfants, c'est à partir de 5 ans.
Ça, c'est très
et il y a effectivement deux tout petits bouts de choux qui sont en piste, les deux derniers de la famille, ils ont 5-6 ans, haut comme trois pommes. C'est très joli, mais ça reste une petite chose.
Et c'est au Firmin Gémier, j'accrocherai sur mon front un as de cœur. Avant les conseils, je vous rappelle le lancement depuis 15 jours du 28e prix des auditeurs du Masque et la Plume pour savoir qui succédera à François Ozon et à Ken Loach. Et là, c'est très simple. Vous écrivez sur une carte postale adressée à la Maison de Radio France 116 avenue du Président Kennedy ou alors en envoyant un courriel sur le site de l'émission franceinter.fr. Vous inscrivez le film français et, attention, le film étranger que vous avez préféré au cours de l'année 2017. Et vous avez jusqu'au 28 décembre avant qu'on fête en début d'année prochaine vos résultats. Au cours d'une émission spéciale. Un conseil, on commence avec Charlotte.
Alors, Flamme de Ahmed Madani, où 10 jeunes femmes issues de l'immigration et qui vivent dans des quartiers dits de zones urbaines prioritaires, nous parlent de leur quotidien, se projettent dans le futur. C'est un travail d'une extrême exigence artistique, plein d'énergie. Il n'y a rien de naïf là-dedans, il y a beaucoup de lucidité. Les filles sont impressionnantes en scène, elles sont extrêmement élégantes et vraiment, elles nous parle les yeux dans les yeux avec une énergie extrêmement communicative. C'est un grand succès à Avignon, il tourne partout en France et c'est jusqu'au 17 décembre au Théâtre de la Tempête.
La Tempête, le conseil d'Armelita.
Alors c'est pour dans longtemps, c'est pour du 17 au 27 janvier à la Comédie de Reims. Un homme seul en scène, mais c'est un des plus grands comédiens européens. Il est belge, il s'appelle Johan Lezen et il joue sous la direction de Jacques Osinski, le Lens. Le texte dans lequel Büchner parle de cet épisode quand Lenz perd un peu la raison, se balade dans la montagne en France, dans les Vosges, et est recueilli par un pasteur merveilleux qui s'appelle le pasteur Oberlin, qui le protège de sa déraison. Et c'est vraiment un moment d'immense théâtre.
Et ça sera que...
À la Comédie de Reims, non, mais Reims. Ça va partir
après,
en tournée plus tard.
Donc janvier, hein, oui. Fin janvier. Le conseil de Fabienne.
Les conseils, deux très vite. Alors, probablement rapide, les Bahamas de Martin Krimp, monté par Anne-Marie Lazzarini. Martin Krimp, c'est un auteur anglais contemporain, fils adoptif de Pinter, pour les drames qui se nouent à travers les conversations les plus anonymes d'un couple de retraités là du sud de l'Angleterre. C'est finement joué, c'est terrifiant et c'est très sympathique. Et puis alors, aller découvrir jusqu'au 16 décembre au Théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis, La Fuite de Bulgakov, mis en scène par Masha Makeyev, qui était une pièce que je ne connaissais pas et qui est une espèce de rêverie fantastique sur fond de Révolution d'octobre, totalement
ensorcelante. C'est le vrai texte de Bulgakov ?
Oui, c'est le vrai texte de Bulgakov.
D'accord. Le conseil de Jacques ?
Moi, je conseillerais d'aller voir L'art de Suzanne Brut de Michael Stamp. C'est mis en scène par Christophe Lidon au Théâtre des Déchargeurs. Et il y a une actrice remarquable qui s'appelle Marie-Christine Daned qui joue le rôle d'une... une femme à moitié folle qui est enfermée dans un asile sous l'occupation et qui peint...
Oh bah, ça fait quand même, c'est un peu double peine quand même. Hein.
Pas du tout, c'est pas du tout un spectacle triste. Cette femme est plutôt vive et joviale et elle est dans...
Elle est joviale dans...
Oui.
Dans
oui,
cette,
oui,
dans
oui,
sa situation.
Absolument. Elle est illuminée. Elle s'adresse à Sainte-Jeanne. Elle s'adresse à la Vierge
ah oui.
Marie.
Ah oui, elle est folle,
et elle
oui.
les peint.
Elle est totalement folle.
Je vous laisse la responsabilité de vos propos. Mais c'est un très, très beau spectacle. Et vraiment, à la fin, cette femme était imaginaire, mais on le regrette, on aimerait voir ses toiles.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Charlotte Lipinska, Armel Elio, Fabienne Pascaud et Jacques Nerson. Pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin, avec la collaboration de Lisiane Selam ce soir, au Charles Trenet à la technique, et je les remercie, Philippe Mercher, Julie Garraud et Antoine Viossa. La réalisation était de Didier Lagarde, et vous notez bien s'il vous plaît que le prochain enregistrement du Masque, eh bien c'est le jeudi 14 décembre. Je vous attends nombreux à 20h au studio Sacha Guitry pour deux émissions, l'une consacrée au film et l'autre au livre. Dans une semaine, on parle de cinéma. Je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.